Le studio d'art contemporain Le Frénois à Tourcoing présente actuellement une exposition autour de l'artiste Saodat Ismailova. L'artiste ouzbek y présente 6 de ses grandes pièces en correspondance avec celles d'autres artistes de l'Asie centrale. Le Centre Pompidou Paris est co-organisateur de cette exposition, présentée donc au Frénois à Tourcoing jusqu'au 30 avril 2023.
Donc Marcella Lista, conservatrice responsable de la collection Nouveaux Médias au Centre Pompidou.
Voilà, donc cette exposition présentée au Frénois fait appel à deux forces vives de l'univers des grands musées de France, on va dire.
Alors l'exposition est une collaboration en effet entre le Centre Pompidou qui a initié dès avant sa création au milieu des années 70 une collection absolument pionnière en matière de vidéos, sons et nouveaux médias et d'autre part le Frénois qui est également une institution pionnière dans le soutien aux artistes dans l'exploration des nouvelles technologies.
Donc l'artiste invité principalement dans cette proposition d'aujourd'hui a déjà était au Frénois pour travailler et donc aujourd'hui elle revient comme grande vedette, on va dire.
Exactement, c'est un magnifique parcours puisque Saodat Ismailova, qui elle-même a connu de nombreux contextes, elle a en fait grandi en Ouzbékistan, elle a ensuite émigré en Italie pour être dans une résidence d'artiste, ensuite en Espagne, ensuite à Paris, où elle a parfait sa formation au Frénois comme étudiante pendant 2 ans, entre 2016 et 2018. Elle y a réalisé 2 œuvres importantes qui sont dans l'exposition. Et effectivement, elle est invitée à montrer l'évolution de son travail depuis cette période.
Donc il est rare de présenter cette région du monde particulière. Elle est très méconnue en plus, c'est vraiment une belle occasion.
Alors, on connaît très mal l'Asie centrale. On la connaît parfois par une mythographie que certains artistes ont construit. Je pense notamment à Joseph Beuys. Joseph Beuys parlait beaucoup de l'Eurasie, hein, de ce continent unique qui relierait en fait la Russie occidentale et puis l'extrême-orient. Il était fasciné par les savoirs chamaniques. Et donc, on a des récits, on a des représentations, disons, qui appartiennent un petit peu à cet univers mythologique, disons, du XXe siècle. Et c'est seulement, je dirais, après la chute de l'Empire soviétique, à partir du début des années 90, au tournant des années 2000, qu'on a commencé à découvrir, à mieux connaître l'art produit dans ces régions et qui hérite un peu d'une double tradition, la tradition, disons, de l'art moderne et postmoderne russe, soviétique, les avant-gardes russes du XXe siècle, et puis ensuite le Sotsart, etc. Et puis de l'autre, des traditions continues hein, qui ont survécu, disons, dans leur pays, que ce soit dans le domaine littéraire, théâtral, cinématographique et des arts visuels.
Alors étonnamment, dans ces artistes présentés aujourd'hui, il y a beaucoup d'entre eux qui sont des artistes conceptuels.
Alors c'est tout à fait passionnant hein, de voir comment, dans cette situation de crise historique hein, qui se produit après le démantèlement hein, d'un empire contemporain comme celui de l'Union soviétique, eh bien la réponse c'est de questionner, de déconstruire hein, les pratiques traditionnelles et d'utiliser le langage, d'utiliser la spéculation philosophique, l'autocritique pour repenser hein, la façon dont on élabore un propos artistique. Donc aussi bien Victor et Yelena Varobiov, couple d'artistes parmi les plus importants du Kazakhstan aujourd'hui, que Vyacheslav Arunov, qui est d'origine kirghize, mais qui a grandi au Kazakhstan, qui a aussi voyagé en Russie soviétique, ont à la fois bénéficié de cet enseignement, hein, disons, qui partait quand même du modèle russe, qui partait du modèle du réalisme socialiste à cette époque-là, pour petit à petit voilà, prendre des voies de traverse. Beaucoup d'expositions se passaient en appartement à cette époque-là, dans les années 80. Hein, les musées officiels ne représentaient absolument pas ce type de pratique. Et la dimension conceptuelle permet aussi de travailler de façon immatérielle, hein, de ne pas forcément passer par des objets.
Et donc au Centre Pompidou, vous avez des collections de ces artistes de manière permanente ?
Alors, le Centre Pompidou s'est illustré par, d'une part, la présence de nombreux artistes russes hein, qui ont émigré à Paris depuis le début du XXe siècle. Donc ça, c'est un paysage, disons, historique de la collection qui préexistait. Récemment, il y a eu un grand ensemble d'art contemporain russe qui est entré sous le terme de « collectia ». Et nous nous employons parallèlement justement à donner une représentation plus diversifiée de cette région avec, personnellement j'ai fait entrer en collection un grand nombre d'artistes, alors des artistes lituaniens et le travail notamment de Saudat Ismailova, le travail des Vorobyov sont entrés en collection depuis les 5 dernières années.
Bien, merci beaucoup.
Je vous en prie.
Nous sommes toujours au studio d'art contemporain Le Frénois à Tourcoing pour la présentation de Double Horizon jusqu'au 30 avril 2023. Nous retrouvons Saudat Ismailova au premier étage de la Grande Nef du Frénois où elle nous livre quelques clés de compréhension de cette exposition très originale. Saudat Ismailova, bonjour.
Bonjour.
Donc vous présentez ici au Frénois une exposition où vous avez beaucoup d'œuvres qui vous sont personnelles et aussi des artistes que vous avez invités qui présentent leurs propres œuvres avec un titre qui est aussi un thème, Double Horizon. Alors on voit bien la complexité en visitant l'exposition. Vous-même vous êtes plutôt vidéaste d'une manière générale, mais vous aimez aussi retrouver des traces d'artistes passés, enfin de formes d'art, d'artisanat passés, et aussi de la vie locale avant même l'arrivée des religions, j'allais dire, contemporaines.
Oui, je pense que pour moi c'est très important travailler et sur les différentes couches. Les couches, pas que historiques, mais aussi personnelles, familiales, et les histoires qui sont toujours gardées et être transmettre. Et quand on travaille avec cette information et sentiment, bien sûr, il y a des niveaux et des couches qui apparaissent. Il ne faut pas que penser à un temps historique trop long. Il est déjà dans cette histoire, dans les familles. Mais aussi, comme vous avez dit, il y a bien sûr des artistes d'Asie centrale, de générations avant moi, et c'est très important pour moi parce que c'est des artistes qui m'ont inspiré. Et aussi, on ne peut pas apparaître s'il n'y a pas cette longue histoire de formation avant. Ça, c'est clair, hein, c'est comme un procès unique. Qui prend du temps en fait. Et aussi moi je ne me limite pas qu'avec Ouzbékistan, je suis ouzbek, je viens d'Ouzbékistan, pour moi c'était très clair que la région c'est une matière unique et que c'est une matière que c'est pas que c'est enrichi mais c'est un organisme qui ne peut pas être dividé. Vous voyez, c'est pour ça, pour moi, c'est important d'avoir les artistes qui viennent de pays qui existent aujourd'hui. Mais quand même, on a relié et on construit quelque chose qui peut fonctionner quand on a tout ensemble, en fait. Il y a un dialogue ensemble, ouais.
Donc, votre travail est conceptuel depuis très longtemps, c'était pas encore complètement à la mode partout, mais maintenant vous avez donc ce travail qui mêle recherche artistique, esthétique, le son aussi qui est présent dans cette exposition. C'est une globalité intéressante à décrypter.
Décrypter, ça veut dire
à essayer de comprendre.
Ah, pour montrer
pour
les archives
pour le spectateur.
Ah, pour le spectateur, ouais. Ouais.
Pour le spectateur, comment il évolue dans l'espace et en fonction de quoi il va fixer son regard et comment il peut comprendre les choses que vous présentez.
Ouais, je vois. Dans l'exposition à Grand Nef de Frénois, il y a toutes les œuvres des artistes, des autres artistes, et des artistes invités et aussi mes œuvres. Mais à le premier étage, à balcon, il y a qui on s'appelle le laboratoire suspendu. C'est pour montrer un petit peu, c'est juste un petit peu les livres qui m'ont inspiré, les textes, les photographies que j'ai collectées. C'est juste un petit choix de cette semaine de recherche. Je trouve que c'est important parce que sinon, on peut rester dans une distance quand même. Hein, parce que quand les gens pensent ou imaginent Asie centrale, ils se ressemblent à un terrain inconnu en fait, toujours. Et ça, ça peut être un trigger pas très positif parce que ça peut donner une distance en relation des œuvres qui peut devenir une expérience par exemple exotique. Et ça, pour moi, c'est important à casser ça parce que on parle quand même, toutes les artistes ici, on parle de questions globales, humaines en général. Ce n'est pas relié qu'à ce terre-là. Et je pense que ce laboratoire suspendu peut aider à entrer et aussi à avoir un contexte plus grand.
Donc le contexte politique et parfois culturel, interculturel est important dans ce travail qui est présenté. On voit des moments qui ont été peut-être bouleversants, qui ont bouleversé la vie des gens en Ouzbékistan et ailleurs, des grandes périodes qui ont modifié des comportements, même des pratiques. La place même des femmes a été changée beaucoup.
Oui, bien sûr. Bien sûr, c'était une période pas clairement, comment je peux mettre ça, positif, mais aussi c'était pas une période négative, hein, parce que si je parle comme une femme qui vient de cette partie du monde, bien sûr, je viens d'une famille qui était éduquée. Alors peut-être c'est un petit peu différent, mais quand même, si on parle en général, les femmes, les situations des femmes ont totalement changé. Ils ont le accès à l'éducation, ils ont le droit de travailler, ils ont le droit de choisir, ils ont le droit de divorcer. Alors ça, c'est un grand changement qui, doucement, changer notre société, et c'est commencé avec la période soviétique. Mais il y a aussi des côtés, par exemple, en relation de écologie, de extraction de
extraction des espèces.
Non, c'est pas que ça, c'est le extraction.
On va reprendre,
hein. Ouais. Je vais vous demander à mon français. Extraction of natural resources, comment on dit ça en français?
L'exploitation des ressources naturelles.
Ouais. Bien sûr, la question de l'exploitation des ressources naturelles et aussi les questions des frontières, des créations des nationales, ça c'était fait pendant les périodes soviétiques. Mais on ne peut pas dire que c'était une période que négative. Hein. Il y a côté positif dans le même niveau que côté négatif et positif. Je pense que ce qui est important maintenant, c'est à repenser cette période et analyser. Et parce qu'il y a beaucoup de choses importantes qui se passaient pendant cette période aussi.
Alors c'est vrai que ce n'est pas facile en ce moment où on est assez binaire, il y a le bien, le mal, ouais, et on ne voit pas des globalités, ouais, et puis des nuances. On est sur des jugements, ouais, comme ça, alors que quand on découvre ce travail, c'est beaucoup plus complexe.
Oui, bien sûr, c'est plus complexe. C'est comme... Et je pense que ça, c'est la grande erreur à dire que ce n'était pas bien et mettre le culpe à un système. Parce que ce n'était pas que le système, on était dans le système. C'est aussi notre responsabilité. Ça, ce qui est important, je pense, c'est à réfléchir et à analyser le période et voir comment se reflète aujourd'hui et prendre le côté positif qui existait aussi dans cette période et peut-être questionner le côté négatif et voir comment on peut aussi travailler avec ces côtés qui se passaient et peut-être il faut régler, il faut travailler sur le côté, le trace négatif qui se passait. Ouais.
Après, il y a une chose qui est aussi intéressante et que de nombreux artistes contemporains reprennent, c'est toute la période un peu chamanique, où, par exemple, vous, c'est avant l'islam. Mm-hmm. Et ça, on ne connaît pas très bien ça.
Mm-hmm. Oui, c'est très important parce que c'est aussi une manière, comme on vous avait dit, de dire ça c'est blanc, ça c'est noir. C'est pas comme ça non plus pour les pratiques religieuses. Par exemple, une religion qui était née dans le péninsule arabe, ça peut pas être pareil en Iran qui a eu une grande civilisation avant, en Asie centrale qui a eu des bouddhismes, de présence des Grecs et hellénistes ou les traditions chamaniques et animalistiques, zoroastriennes. Ça ne peut pas être pareil, ce n'est pas possible parce qu'il y a toujours des nuances, des tonalités. Et nous, on a cet islam qui c'est une forme, notre islam, c'est une forme plus syncrétique. C'est un islam syncrétique et je trouve que c'est une manière de regarder à la vie ou de penser à la vie à une manière plus grande qui. Une religion qui limite la vision antérieure pensément. Voyez
voilà, donc plusieurs lectures, une double vision, et on voit beaucoup de lignes d'horizon aussi dans cet espace.
Oui, c'est vrai, comme l'artiste de Kazakhstan il a dit, Yelena Vorobyova, qu'en fait, dans notre vie, peut-être il n'y a qu'une ligne d'horizon qui reste comme une constante qui peut nous garder et donner la gravité à continuer à vivre. Mm-hmm. Ouais.
Et alors, au Kazakhstan, certains seraient d'anciens extraterrestres, issus d'anciens extraterrestres ?
Oui, ils disent que en fait, cette yourte, c'est une mémoire, ancienne mémoire, sur le voyage d'hommes qui arrivaient des autres planètes à la Terre.
C'est comme une fusée qui atterrit et ça fait cette forme-là, qui prend possession. Et l'intérêt aussi, c'est bien expliqué que, en fait, il y a une approche très directe avec le cosmos quand on vit dans ces yourtes.
Oui, exactement. Mais ce n'est pas que la yourte, c'est la steppe. Parce que la steppe, c'est quand on regarde, c'est une matière, petite matière de terre, et on voit beaucoup de ciel. C'est une expérience totalement différente qui change comment on pense de nous.
Merci à Saoudat Ismailova pour ce temps d'échange important pour l'approche de cette exposition Double Horizon à découvrir au Frénois à Tourcoing jusqu'au 30 avril 2023. Une réelle opportunité de découvrir des cultures méconnues et des univers originaux comme cette œuvre d'Andrius Arutunian sur laquelle se termine ce sujet.
Donc vous allez voir effectivement le travail d'Andrius, qui est un artiste arménien, mais qui est aussi à la Lituanie, qui vit aujourd'hui à La Haye, aux Pays-Bas. C'est un travail qui parle de ce phénomène d'exclusion, hein, de marginalité, à travers qui est aussi lié à des phénomènes de migration, et traduit de façon très politique dans un univers sonore composé par lui.
C'était un reportage de René Laverne de Radio Campus Lille.